Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la grande édition de cette mi-journée du 8 avril 2020. En voici les grandes articulations. La famille de feu président Cyprien Aliamira réclame toujours de l'indemnisation 26 ans après sa mort dans un crash d'avion à l'aéroport de Kanombé à Kigali. Mais des informations détenues par notre rédaction font état d'un détournement des frais d'indemnisation pourtant versés par l'assureur de l'appareil. On fera le point dans ce journal. Le gouvernement burundais a décidé le 27 mars dernier de fermer temporairement ses frontières du nord avec le Rwanda et celle de l'ouest avec la RDC pour éviter la contamination à grande échelle des populations. Le directeur général de l'autorité maritime, quant à lui, précise que l'importation et l'exportation des marchandises entre le Burundi, la Tanzanie et la Zambie continuent. Seuls les bateaux en provenance de la République démocratique du Congo ne sont pas autorisés à accoster au port de Bujumbura. Vous entendrez ses explications. Et le ministre de l'Agriculture déclare que la vente des produits agricoles vers l'extérieur du pays a été combattu dans le but de préserver la récolte obtenue dans le pays. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et dans la rubrique « Parlez, rassure-moi », il sera question de discours violents annonçant la fête dans notre groupe. Voilà pour le sommaire.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Bonjour, je venais de vous le dire, la vente des produits agricoles vers l'extérieur du pays a été combattue dans le but de préserver la récolte obtenue dans le pays. C'est une annonce du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage lors d'un point de presse ce mardi sur la question de savoir le pourquoi de la hausse des prix de certaines denrées alimentaires alors que la récolte a été bonne. Deogui Derurema a répondu que cela est dû à la spéculation des commerçants et qu'il va donner le rapport au ministre en charge du commerce pour que ce phénomène soit découragé. On l'écoute. Il est traduit par Armel Motore.
Notre constat est qu'au niveau des frontières à Muyinga, Luige et Rutana, les denrées alimentaires sortaient vers l'extérieur du pays. C'est pourquoi nous avons demandé et avons pris des mesures pour sanctionner ceux qui ont cette mauvaise habitude de vendre la récolte à l'étranger. Nous voulons que la population consomme d'abord les produits de leur récolte pour qu'elle puisse être en bonne santé. Pour ce qui est de la hausse des prix, nous savons qu'il existe des commerçants spéculateurs. C'est pourquoi nous sommes là pour rassurer les acheteurs, que personne ne profite de la situation pour spéculer sur les prix des denrées alimentaires. Ce qui nous plaît, c'est que sur terrain, les choses se présentent bien, la récolte et les cultures sont plaisantes à voir. Quant à ces hausses des prix, nous allons le rapporter au ministre en charge du commerce pour juguler ce phénomène et que les commerçants arrêtent de spéculer sur les prix sans raison valable.
C'était le ministre en charge de l'agriculture et le gouvernement burundais a décidé le 27 mars dernier de fermer temporairement ses frontières du nord avec le Rwanda et celles de l'ouest avec la RDC pour éviter la contamination à grande échelle des populations. Dans une note verbale adressée au ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine ce mardi, le ministère des Affaires étrangères a recommandé que le transport des marchandises en provenance des pays de la sous-région à destination du Burundi soit effectué à travers les autres frontières qui restent ouvertes sans préjudice aux mesures sanitaire arrêté par le gouvernement burundais. Toutefois, le gouvernement a autorisé exceptionnellement l'entrée des camions des marchandises en importation et déclaré pour destination le Burundi avant la fermeture des frontières du nord et de l'ouest. Il en est de même pour les camions en transit via le Burundi qui sont dans les mêmes conditions. Dans cette note verbale, le gouvernement burundais termine en réitérant son engagement au principe de l'EIAC. Le manque d'eau courante électrique et de bacs de flottaison sont certains des obstacles qui font que la station de lavage de Buyenzi en commune et province Makamba n'achète pas un café d'excellente qualité. S'exprimant lors du lancement ce mardi de la campagne café, Touikeze Aloïse, chef de cette station de lavage, a signalé que les producteurs apportent des grains de café ne remplissant pas les conditions requises pour être de qualité série A. D'où l'obligation de recourir à un triage manuel qui devrait normalement être suivi de flottaison. Et au niveau du bureau provincial de l'agriculture, l'on promet de faire rapport de cette situation aux échelons supérieurs. Correspondance de Jérôme Hakizimala.
Celui-là est l'un des caféiculteurs rencontrés à la station de lavage Bouyezi en commune et province Makamba. Il dit ne pas être habitué à faire la sélection minutieuse à la station lors de la flottaison comme ils sont en train de le faire cette année-ci. Pendant les années précédentes, on ne procédait pas à la flottaison lors de la sélection, mais cette fois-ci, tu vois que nous le faisons et entreprise. J'ai peur qu'ultérieurement, les caféiculteurs ne seront pas servis tous, car ici à Bouyezi, même le matériel de lavage n'est pas suffisant. Selon Tuikeza Loïse, le chef de cette usine Bouyezi, il est irréversible qu'on procède à une rigoureuse sélection pour avoir un café d'excellente qualité lors de cette campagne café en cours.
Et pour cette première journée, la qualité de la cerise n'est pas très excellente. C'est pourquoi vous voyez là-bas, nous sommes en train de procéder à une sélection très rigoureuse.
Toutefois, ce responsable déplore le manque de bacs de flottaison et la non-électrification d'au moins la salle de réception comme certains des obstacles pour parvenir à cet objectif.
Il nous faut absolument des bacs de flottaison pour effectivement aboutir à un café de qualité. Ces bacs ne sont pas disponibles à l'usine Bouyezi. Nous avons aussi besoin de l'électrification de la salle de réception parce que nous voyons effectivement que les achats vont se faire aussi très tard, pendant la nuit.
Au niveau du bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Makamba, l'on promet faire parvenir son rapport aux échelons supérieurs. Du reste, continue-t-il, les défis liés aux stations de lavage du café ne figuraient plus parmi leurs préoccupations, du fait seulement que ce dernier était naguère dans le secteur privé. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro.
Merci Jérôme. Cap maintenant sur la province de Cibitoke où nous retrouvons Alexine Dayiragije qui nous rapporte que plus de 50 hectares de champs de maïs, de haricots, de sorgho et même de manioc ont été endommagés par des pluies mêlées de grêle tombées l'après-midi d'hier au chef-lieu de la province Cibitoke. À part les champs touchés par ces pluies, plus de 10 maisons ont été endommagées. L'administrateur de la commune Rugombo demande aux personnes sinistrées de se retenir en attendant d'être assisté. Alexine Dayiragic.
La localité qui a été plus touchée par ces pluies mêlées à la grêle de l'après-midi de ce mardi est le chef-lieu de la province Cibitoke de la zone Cibitoke de la commune Rugombo. Dans cet endroit, alors plus de 50 hectares de champs de maïs, sorgho, haricots, manioc ont été plus touchés par la grêle. À part ces champs, plus de 10 maisons ont été endommagées par le vent de ces pluies. Certaines personnes contactées au chef-lieu de la province Cibitoke indiquent que plus de 10 ans venaient de se terminer sans que ces pluies est tombé dans cet endroit, c'est tout. Comment cette grêle a commencé à tomber avant les pluies? Les sinistrés de ces pluies demandent aux autorités habilitées et aux bienfaiteurs de les assister. Au sein du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, on indique que l'identification des personnes sinistrées continue. L'administrateur de la commune Rugombo, Béatrice Kaderi, indique que la zone de Kiramira, également de la même commune, a été touchée par ces pluies. Tout en précisant que les administratifs à la base continuent à identifier les sinistrés de ces pluies. Elle demande à ces sinistrés de se retenir en attendant l'assistance. Depuis Cibitoke, Alexine Dayiragije, Radio Isanganiro.
Les employés des services techniques municipaux réunis au sein de leur syndicat demandent d'être régularisés pour les arriérés des cotisations à l'Institut national de sécurité sociale INSS ainsi que les montants retirés sur leur salaire et non versés à la mutuelle de la fonction publique. Le premier secrétaire de ce syndicat dit qu'ils ont adressé une correspondance dans ce sens au commissaire général de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bourra. Juvenal Ndayizeye précise que cette question a été adressée aux différents dirigeants des CTMU, mais sans succès. Suivez-le, il est au micro d'Ezekiel Ndikumwenayo.
Nous avons vu le décret numéro 100/079 portant la création, mission, organisation et fonctionnement de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de construction au Bourra. Nous avons été surpris à ce décret car personne n'est venu nous expliquer cette mesure d'office. C'est pourquoi nous exposons nos inquiétudes du personnel de cette MU suite aux avantages non octroyés par son ex-employeur que la cette MU Nous avons un problème à l'INSS daté pour les années 2017 et 2019. C'est la cotisation à l'INSS qui n'a pas été virée pour ces deux années. Il y a aussi un problème de cotisation à la mutuelle à partir de 2016 jusqu'à nos jours. Cela a eu comme conséquence la non-assistance dans les soins de santé et cela nous réclamons la légalisation correspondant au montant retiré et non versé à la mutuelle de la fonction publique. Nous avons aussi réclamé les frais de déplacement équivalents de 15% du salaire de base que la CTMU a retiré sur nos salaires depuis 2013 jusqu'à la fin décembre 2019. Nous demandons aussi que le Bouhan continue à rembourser les crédits collectifs contractés auprès des banques et microfinances par le personnel de la CTMU.
Pourquoi la réclamation aujourd'hui en 2020 alors que ça date depuis 2013 et 2016?
Ces questions ne sont pas des questions d'aujourd'hui. Nous les avons dénoncées même avant que le Bouhan fonctionne. Tous les directeurs qui ont dirigé la CTMU connaissent ces questions. C'est pourquoi nous sommes dans la continuité à réclamer nos droits.
Et à ce propos, nous avons contacté le commissaire général de l'Obura pour réaction, mais sans succès, puisqu'il n'a pas décroché son téléphone. La famille de feu président Cyprien Ayamira, habitant la colline Egitoué de la zone Magueyo en commune Mouimbi de la province Bujumbura, demande la vérité sur les circonstances de la mort de ce président n'ayant fait que 2 mois au pouvoir. Tué lors d'un crash d'avion le 6 avril 1994 à l'aéroport de Kanombé à Kigali, cette famille réclame en outre de l'indemnisation 26 ans après. Des informations que le radio Isanganiro détient font état du versement de l'indemnisation par la société d'assurance, bien que les ayants droit ne l'aient pas encore perçu. On fait le point avec Mireille Kanyang.
Dans la localité de Ruizi, sur la colline Gitwe, non loin du bureau de la zone Magueyo, à partir de la route nationale numéro 1, j'emprunte une petite rue à droite, peu ou pas utilisée. Après 15 minutes de marche, j'arrive à l'ancienne résidence des parents de feu président Cyprien Ntaryamira. Après quelques minutes, je redescends vers la goudronnée dans un atelier de menuiserie près des champs de culture. J'y rencontre les membres de la famille Ntaryamira. Pour sa sœur, c'est dur d'attendre pendant 26 ans. Ils ont été choqués par cette mort. Pour elle, ils ont souvent demandé au gouvernement de suivre cette affaire. Pour cet autre membre de la famille, ce n'est pas un simple crash qu'il a plutôt été tué. Il demande que lumière soit faite. À cet atelier de menuiserie, je m'entretiens avec cette trentaine. Pour elle, la zone Magueyo devrait être plus développée. Non seulement la famille demande justice, elle voudrait que la route menant à la résidence des parents de feu président Ntaryamira soit réhabilitée. Autre demande, c'est l'indemnisation de la famille. Sur ce, des informations détenues par la rédaction Isanganiro précise que par le biais de l'avocat de la défense, l'indemnisation a été versée par la société d'assurance de l'avion ayant fait objet de crash. Mais jusqu'ici, les familles des Burundais et Français n'ont pas encore eu leur part. Selon ces informations, cet avocat reste introuvable.
Merci Mireille. Et la femme de feu président Ntaryamira réclame auprès du président de la République la reconnaissance nationale de l'engagement du défunt son mari pour la paix et la réconciliation dans son pays. Dans une correspondance adressée au numéro 1 Burundi le 6 avril 2017, lors de la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat du président Ntaryamira, Sylvane Mabganayo Ntaryamira a demandé le soutien du gouvernement afin qu'il y ait une enquête internationale pour élucider les circonstances de son assassinat. Charles Makoto a lu cette correspondance, il nous en donne le contenu.
Dans cette correspondance, Sylvane Mhawenayo Ntaryamira trouve que la commission Vérité et Réconciliation n'est pas compétente pour gérer le dossier relatif à l'assassinat du président Ntaryamira. Pour motif, écrit l'épouse du défunt, l'attentat contre l'avion du président a été perpétré en dehors du Burundi. Je voudrais suggérer au gouvernement du Burundi d'introduire une requête auprès des Nations Unies afin de demander la mise en place d'une commission internationale impartiale qui saurait rétablir les faits et identifier les auteurs et les commanditaires de cet acte ignoble, écrit l'ex-première dame. Cela permettra d'avoir des éléments tangibles qui serviraient de base pour que la justice soit faite à l'endroit des familles des victimes et du peuple burundais. J'ai saisi la présente occasion pour demander au peuple burundais à travers votre institution de président de la République de poser un geste de reconnaissance à l'endroit du fait son excellence président Habyarimana Cyprien en l'élevant au rang des héros de la paix en guise de reconnaissance de sa bravoure, son sens de patriotisme élevé ainsi que son engagement infaillible pour un Burundi paisible et réconcilié avec lui-même à travers la discipline. Revenant sur la désignation de son mari à la tête de l'État en 1994, elle note que son époux n'a jamais tergiversé face à la haute mission lui confiée. Pourtant, écrit Sylvain Habyarimana, le défunt savait très bien qu'il s'agissait d'une mission périlleuse qui pouvait l'emporter comme son prédécesseur, étant donné les circonstances qui prévalaient à l'époque. Dans cette correspondance, Sylvain Habyarimana revient sur la date du 5 avril 1994, quand le président Habyarimana décida de participer au sommet de chefs d'État sur la paix dans la sous-région à Dar es Salaam, tellement certains y étaient hostiles, qui n'ont pas hésité de faire circuler des tracts d'intimidation pour le persuader de ne pas participer dans cette rencontre. Mais, écrit toujours l'ex-première dame, rien ne pouvait venir à bout de sa détermination à se battre pour amener la paix dans son pays. Toutes ces qualités, conclut l'ex-première dame, concourent pour élever au rang du héros de la paix et la réconciliation le président Cyprien Habyarimana.
Charles Makoto. Et en bref, avant la chronique qui nous parle, rassure-moi, 5 militants du parti CNL ont été arrêtés ce mardi en commune Marangara de la province Ngozi. Moïse Ndouimana, représentant communal de ce parti, accuse les Imbonerakure du CNDD-FDD d'être auteurs de ces arrestations en présence de l'administration qui, selon lui, n'agit pas. Toutefois, Emmanuel Nachonsanze, administrateur de la commune Marangara, nie les allégations contre l'administration. Il explique plutôt que ces militants sont appréhendés pour leurs infractions, surtout la perturbation de l'ordre public. Ils prônent le respect mutuel entre les militants de ces deux formations politiques. Et l'importation et l'exportation des marchandises entre le Burundi, la Tanzanie et la Zambie continuent. Seuls les bateaux en provenance de la République démocratique du Congo ne sont pas autorisés à accoster au port de Bujumbura. Déclaration du directeur général de l'autorité maritime qui précise que cette mesure rentre dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19. Le Covid-19, justement, dans l'actualité internationale, le Premier ministre britannique Boris Johnson a passé sa deuxième nuit en soins intensifs alors qu'il continue à recevoir un traitement contre le coronavirus à l'hôpital Saint-Thomas de Londres. Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui assure l'intérim du Premier ministre, a déclaré qu'il était confiant que le Premier ministre se remettrait de cette maladie, le décrivant comme un combattant. Et s'exprimant mardi lors de la réunion d'information sur le coronavirus à Downing Street, il a déclaré que M. Johnson recevait un traitement standard à l'oxygène et respirait sans aucune assistance respiratoire.
Parle, rassure-moi.
Les discours qui annoncent la fin de l'autre groupe sont caractérisés par la violence. Chartier Niyungeko, consultant en transformation des conflits, explique que ces discours sont à l'origine des conflits du passé, sont l'origine des conflits du passé qui n'ont pas été résolus pacifiquement. La voie de médiation est l'une des meilleures solutions pour régler ce problème susceptible de provoquer des divisions ou des violences de masse. Ornella Mucho.
Les discours qui annoncent la fin de l'autre groupe rentrent dans la violation des droits de l'homme. Chartier Niyungeko, consultant en transformation des conflits, précise que les auteurs de ces discours ont souvent l'intention de terroriser l'autre groupe.
La cause de ces discours, il s'agit des situations ou des problèmes, des situations de conflit où il y a plusieurs groupes de gens qui ont été en désaccord par rapport à certaines choses ou des groupes qui ont été en conflit, qui n'ont pas pu être gérés comme il faut.
Selon toujours lui, à force d'utiliser ces discours, cela attise la haine entre ces deux groupes en conflit, ce qui peut engendrer des violences de masse.
Ces discours qui annoncent la fin de l'autre sont aussi accompagnés de comportements de violence, même des actes. Parce qu'après ces discours, on observe des actes qui les suivent, des actes qu'est-ce qui s'ensuit. Et ces actes-là sont des actes qui conduisent au crime, qui conduisent aux tueries et qui conduisent à la destruction des infrastructures.
Le dialogue est un meilleur remède pour trouver des solutions solutions pacifiques.
Il y a des voix qui peuvent toujours aider les gens à faire face à leurs problèmes sans toutefois passer par la violence, notamment le dialogue. Il est vrai, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, mais qui produit toujours des résultats positifs. Quand on entreprend un dialogue, au moins avec le dialogue, on a l'espoir qu'on va trouver des résultats positifs, sans toutefois causer du tort à qui que soit, surtout au niveau de ces parties prenantes dans cette situation.
Chartine Yungeko, consultant en transformation des conflits, suggère également un médiateur une fois que le dialogue est impossible entre deux groupes en conflit.
On est là, Mocho, et c'est sur cette chronique que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Elie Kadogo. Au micro, Jean Bosco, Nduimana. Passez un très bon après-midi.